On s'en va dans la parole de Dieu, dans le chapitre 50 de la Genèse, la toute fin de la Genèse. Vous savez que la fin de la Genèse prépare le début de l'Exode. C'est vraiment une histoire qui se continue. On a deux livres qui sont distincts, mais l'histoire, c'est la continuation. On a lu déjà ce matin tout le chapitre au complet. J'aimerais juste qu'on relise les versets 15 à 21, qui va être vraiment le cœur de notre message ce matin, sur ce sur quoi je veux qu'on se concentre. On commence le thème du mois d'avril, qui est « Christ, notre Pâque ». Vous allez voir, avec tous les versets qu'on a mis, c'est par rapport à l'agneau pascal, Jésus, qui est celui qui a pris nos péchés, tout le concept d'expiation, puis aussi tout ce qui est rattaché à la Pâque. Donc, c'est les versets qu'on a suggérés dans le bulletin. Mais ici, on a vraiment une transition. L'histoire qui termine la Genèse prépare à cette Pâque qui s'en venait. Pourquoi? Parce que il y avait ce grand besoin de délivrance. On va regarder ça ensemble. On relit les versets 15 à 21. « Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, ils dirent donc à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés. » Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai. Et vous, vos enfants, et il les consola, et il parle en parlant à leur cœur. Oui, Seigneur, on prie que tu parles à notre cœur. Tu nous parles, toi, qui es le Dieu vivant, qui est aussi le Dieu omniscient, Seigneur, il n'y a rien qui t'est caché. Tu connais chaque situation, chaque cœur ici. Merci pour ça, Seigneur. On te prie parce qu'on te demande que toi qui, justement, connais toutes choses, peux faire toutes choses, on prie que tu fasses aujourd'hui une œuvre grande, glorieuse pour ta gloire, de sauver ceux qui ne te connaissent pas encore et de délivrer ton peuple de l'emprise du péché, du mensonge, de la tromperie. Ouvre nos yeux, Seigneur, qu'on contemple les merveilles de ta loi, qu'on contemple aussi le grand Dieu merveilleux que tu es. On s'attend à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème du mois, c'est Christ, notre Pâque, et le message, c'est Christ, le pardon de notre Pâque. Je l'ai dit tantôt, la fin de la Genèse, c'est la préparation, si vous voulez, les prémices pour le livre de l'Exode, qui est la grande révélation de Christ notre Pâque. Hein, dans l'Exode, c'est là qu'on voit vraiment la Pâque originale. En français, on dit Pâque. Les Anglais ont l'expression Passover, parce que l'idée, c'est que l'ange passait au-dessus des maisons où est-ce que le sang avait été versé. Tout ça, c'est une image hein, du salut en Jésus-Christ. Là, comment le sang, c'est important, de cet agneau sans tâche, et donc tout ça est dans l'Exode. Mais ici, on a, dans notre texte, celui qu'on considère ce matin, on a une image, un portrait de Jésus-Christ qui nous montre que Jésus, ici, est présenté comme celui qui est adoré, celui qui est révéré, celui qui était méprisé, mais qui là est dans la plus grande position de souveraineté et de bienveillance. On a une image avec Jésus-Christ, le pardon de notre Pâque ici, dans la Genèse au chapitre 50, avec une grande vérité qu'on connaît. Puis, je ne sais pas si vous savez, là, mais des fois, des gens ont appelé le Genèse 50-20, ils ont appelé ça le Romains 8-28 de l'Ancien Testament. Romains 8-28, ça dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ben ici, c'est un peu la même idée. Vous aviez médité faire du mal, là, mais Dieu, il a changé ça en bien. C'est la même idée que Dieu, il est au-dessus de toutes les circonstances, même le mal qu'il peut y avoir. Dieu peut le changer en bien. C'est ça la rédemption. Et ici, Joseph est un type de Jésus-Christ, comme à tellement d'endroits dans la Bible, on voit des types de Jésus-Christ. Ici, Joseph représente Jésus-Christ qui nous a délivrés de la malédiction de la chute. Vous savez, il y avait la mort, la famine qui était dans le pays de Canaan. Ils sont allés auprès de Joseph et ils ont été soutenus pour leur vie. Et même que ce pays, ce n'était pas la terre promise. En fait, Joseph lui-même appelle ce pays de l'Égypte. Savez-vous comment il l'appelle d'après le nom d'un de ses fils? C'est-à-dire, il donna le nom d'Éphraïm, le nom au second, le nom d'Éphraïm, car il dit « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». C'est le pays de son affliction, mais Dieu a changé ça aussi. Et ce nom d'Éphraïm, qui est aussi très significatif, c'est le cadet, c'est pas l'aîné, c'est le deuxième, mais c'est lui qui a eu la bénédiction. Lui qui était considéré comme inférieur a eu la bénédiction du supérieur. N'est-ce pas aussi comme Jésus, qui était méprisé, abandonné, les gens ne faisaient pas un cas, mais Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Lui qui était vu comme si bas, comme mourant de la mort de la croix, Dieu l'a élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. On voit encore là une typologie de Jésus. Aussi, l'honneur qui est donné par ses frères. Vraiment, on voit une image très riche ici de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il y a plus, et c'est vraiment ça sur quoi je veux mettre l'accent avec le verset 20 spécialement. On voit ici tout comment Dieu a changé le mal ou la méchanceté que les frères avaient envers Joseph pour opérer la délivrance. Le moyen qui était mauvais en tant que tel, je veux dire, les frères l'ont vendu, puis en fait, si ce n'avait pas été d'un des frères qui intervient, il l'aurait tué. Donc, ce mal-là a été le moyen même par lequel la délivrance est opérée. Parce que Dieu l'a envoyé en Égypte, puis là, vous connaissez l'histoire. Mais c'est ça aussi, c'est une image de la croix. Où est-ce que le moyen même de la délivrance a été la culpabilité meurtrière de ceux qui l'ont pendu au bois comme un criminel, alors qu'il était le seul homme qui a jamais été innocent sur cette terre. Mais on apprend dans Actes au chapitre 2 que tout ça... Ça dit cet homme ici, c'est la première prédication de l'histoire de l'Église par l'apôtre Pierre. Cet homme livré, puis ici on parle de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Dieu avait tout prévu, là. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et Dieu a manifesté comme ça qui il est, la grandeur de sa rédemption, mais aussi de sa sagesse, comment il fait toutes choses de façon extraordinaire, et l'ultime transformation du mal en bien, c'est la croix. Et c'est ça qu'on prêche, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8. Maintenant, ça m'amène à résumer ici l'image qu'on a dans Genèse 50 avec Joseph qui représente Jésus et ses frères qui se tiennent devant lui dans le besoin de pardon. C'est ça qu'on a, hein? Ah là, le père a dit, allez voir Joseph, puis vous avez besoin d'être pardonné. N'est-ce pas une image de nous, les fils d'Adam, devant le deuxième Adam, et on a besoin d'être pardonné. Nous qui avons péché, nous devons aller devant celui qui a mis fin au péché, qui a vaincu le péché, et on dépend de sa miséricorde. Si vous êtes ici, vous ne connaissez pas encore la vie, la vraie, celle qui est en Jésus-Christ, aujourd'hui, vous devez aller devant Dieu le Fils, vous humilier devant lui, et reconnaître que vous avez besoin d'être pardonné pour les péchés que vous avez commis contre lui, et que vous pouvez trouver le pardon auprès de lui. Connaissez le verset que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc cette vérité, j'aimerais qu'on la regarde ensemble à travers non seulement la relation entre nous et Dieu au niveau vertical, mais aussi comment ça se... Cette rédemption, ce rachat, cette restauration que Dieu a opérée dans nos vies, comment ça se traduit, comment ça se voit dans nos relations interpersonnelles, parce que c'est ce qu'on a ici avec Joseph et ses frères. Donc, on va regarder simplement trois verbes. Les trois, c'est trois mots, les points ce matin, trois verbes pour mettre en pratique la réalité de Christ, le pardon de notre Pâques. D'abord, on a au verset 16 le mot « donner ». Ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. » Ici, on a le sens légal de Christ, le pardon de notre Pâques. C'est-à-dire ici que le père, le patriarche, Jacob, avait donné l'ordre de traiter la situation préjudiciable. Il y avait un problème, il fallait que ça soit réglé. Savez-vous que c'est le rôle de la loi? La loi nous dit, il y a un problème, il faut que ça soit réglé. La loi est bonne parce qu'elle nous dit le bon diagnostic sur la situation. Et le père ici avait donné l'ordre, il y a un problème à régler. Et la façon de le régler, ça c'est le rôle de la grâce. Le pardon. Ici, Joseph est un type de Jésus qui était responsable de s'occuper de la situation. Le pardon était entre ses mains. Et c'est ce que Jésus, en venant faire son œuvre, le pardon est entre ses mains. C'est à lui qu'on va pour trouver grâce. Parce que c'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui est en position de pardonner, de donner grâce. Donc, le Père a donné son ordre pour traiter la situation préjudiciable. Et à cause de ça, Joseph était en position de donner grâce ou non. Et l'ordre du patriarche ici, c'était qu'il se parle. Il dit, allez voir votre frère, parlez-y. N'est-ce pas qu'il y a quelque chose de tellement important? Lorsque, dans nos relations interpersonnelles, il y a la clarté dans les communications, que lorsqu'il y a quelque chose, on en parle, on n'essaie pas de le mettre sous le tapis, on fait pas semblant que c'est pas là, on fait pas juste de mettre la faute sur les autres, puis ah, si toutes les autres n'avaient pas ces problèmes-là, c'est... Non, on fait face aux problèmes, parce que si on veut trouver la grâce, la restauration, il faut d'abord admettre qu'il y a un problème, puis faire face tel que c'est. Et faire face au problème, comme je le disais tantôt, c'est le rôle de la loi. La loi nous dit, il y a un problème, OK? Et si on le fuit, le problème, lui, ne nous fuira pas. On va juste en être pris. Mais si on y fait face, il peut être surmonté par la grâce, qui est une force supérieure. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsque je fais face aux situations problématiques, là, je peux avoir la grâce de Dieu qui restaure, qui refait à partir de là quelque chose de bon, de beau, de salutaire. Et j'aimerais dire que pour pouvoir donner ainsi, pouvoir donner cette grâce, donner nos cœurs dans la communication, donner la grâce face au péché, face aux blessures que le péché a causées, faut d'abord l'avoir reçu de la part de Dieu. Et ça, mes amis, évidemment, ça s'applique au salut pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, mais pour les enfants de Dieu, recevoir la grâce de Dieu, on a ça par l'adoration. L'adoration. Jésus a dit, et c'est une phrase qui est très riche en signification, parce qu'il parlait comme ça avec cette femme au puits de Jacob, cette femme samaritaine, et lorsqu'il résumait, dans le fond, c'est quoi l'essence de la religion, de la foi? Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'adoration. Il y a un petit verset dans 1 Samuel, vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais ça fait simplement dire, à la fin, vers la fin du chapitre 14, que Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Ceux qui connaissent le roi Saül, on sait malheureusement, il a bien parti, mais il a très mal fini, le roi Saül. Et quand on voit ça ici dans 1 Samuel 14, c'est quand même tard dans la vie de Saül. C'est après avoir fait beaucoup de choses mauvaises et de choses même irréfléchies. Et ça nous montre que pour Saül, l'adoration, ce n'était pas une priorité, contrairement à David. Puis en passant, David est plus criminel à beaucoup d'égards que Saül. Mais David avait une adoration vivante, ancré en Dieu qui l'a empêché d'agir en insensé à tellement de reprises. Ça l'a protégé de lui-même. L'adoration, de retourner à Dieu. Pourquoi? Parce que là, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est se recentrer sur Dieu, si vous voulez, se reconcentrer sur Dieu. C'est ça l'idée dans la Bible de méditer, c'est quand on adore, on médite sur Dieu, ses voix, le focus de notre attention n'est pas sur le problème, sur la personne qui cause des problèmes, sur nous-mêmes, mais elle est sur Dieu. Et c'est ça, adorer, c'est quand que Dieu est l'objet de l'attention de nos cœurs. Et c'est voir Dieu tel qu'il est, parce que l'adoration, ce n'est pas idolâtrique, c'est pas ce qu'on s'imagine de Dieu, c'est ce que Dieu révèle lui-même être dans sa parole. L'adoration, c'est voir Dieu comme il est, grand, souverain, bon, vrai, et tout ce qui peut aller avec ce que Dieu est. Et lorsqu'on le voit ainsi, écoutez bien, c'est là la chose la plus importante, lorsqu'on voit Dieu tel qu'il est, combien on se rend compte que c'est évident que nos efforts pour essayer d'avoir la victoire, pour vaincre, sont vains et ridicules. Quand on se rend compte comment Dieu est tout puissant, on se rend compte comment nous, on est insignifiant. Et c'est bon, parce que ça nous met où est-ce qu'on devrait être, et ça laisse Dieu être où est-ce que lui, il est. C'est ça la puissance de l'adoration. Il y a une puissance libératrice, ça nous recentre sur qui Dieu est. Et j'aimerais même jusqu'à dire, c'est pas la première fois que je le dis, mais la solution à tous nos problèmes, c'est l'adoration, parce que tous nos problèmes dans la vie sont des problèmes d'adoration. On est foncièrement idolâtre, on veut chercher la satisfaction, le sens, à gauche puis à droite, alors que tout se trouve en Dieu. Donc, quand on a un problème, c'est parce qu'on s'est décentré de l'essentiel. Comme dirait un prédicateur que je connais, il est essentiel que l'essentiel reste essentiel. Tous nos problèmes sont des problèmes d'adoration. Pourquoi? Parce que quand on se concentre, notre attention est sur nous, les autres, les circonstances, nos pensées. Ben, lorsqu'on essaye de vaincre ces choses par nous-mêmes, on se rend compte que ça ne marche pas. Pourtant, tout ce qu'on a, c'est de céder, de s'abandonner, de croire à celui qui a déjà surmonté ces choses, qui a déjà vaincu le monde, qui a déjà vaincu tous nos ennemis. C'est lui qui est le seul qui surmonte. Il est le surmonteur, le vainqueur, overcomer. Le surmonteur. Pas sûr que ça se dit, mais c'est pas grave. L'ai dit pareil, je vais mettre mon droit d'auteur là-dessus. Je viens d'inventer un mot. Non, parce que quand on essaie, dans le fond, puis là, on force, un peu comme Paul dans Corinthiens, on se rend compte, non, la grâce de Dieu, elle est suffisante. Et j'aimerais vous dire que dans la vie, savez-vous que le but de la vie pour Dieu n'est pas le même? Nous, là, le but de notre vie, souvent, là, OK, quand on est chrétien, Dieu change ça, on est transformé par le renouvellement de notre intelligence, c'est que si on a un problème, on veut tout de suite la solution. Puis si possible, on n'en veut pas des problèmes. OK? Je suis le seul qui pense de même. On est, tu veux dire, non, tu sais, cette personne est un problème, Dieu, efface-la. Cette situation-là, Dieu, zappe-moi en dehors de ça. N'est-ce pas la réaction humaine? Mais Dieu ne pense pas comme ça, lui. Dieu, il nous envoie ces choses-là comme un rendez-vous. Parce que, vu qu'on adore à gauche, à droite, puis qu'on est idolâtre, puis qu'on s'égare facilement, mais Dieu envoie ces choses-là pour nous recentrer sur lui, pour refocuser notre adoration sur lui. Parce que Dieu dit pas, l'adoration, là, c'est quand tu es à l'église, puis tu es assis, puis tout le monde dit amen, puis c'est super, c'est beau, c'est bénissant, puis gloire à Dieu. Mais l'adoration, c'est au milieu de la tempête, c'est dans la solitude, dans tout. C'est là qu'on rencontre Dieu, puis il y a quelque chose de unique, de précieux, d'irremplaçable. La puissance de l'adoration. Et donner, je vais être capable de donner ça à la mesure où est-ce que je l'ai reçu de la main de Dieu. Et la meilleure façon de donner, c'est d'avoir reçu de sa plénitude. Écoutez ce que ça nous dit dans Éphésiens 3, 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est drôle de connaître quelque chose qui surpasse la connaissance pour dire que c'est plus grand que nous autres. C'est un amour divin. C'est pas un amour dont l'origine est humaine. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est par l'adoration. C'est lorsque j'arrête d'être centré sur moi, mes problèmes, les autres, et que je me recentre sur Dieu. Là, ça va se produire. N'est-ce pas ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18? Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est le fruit de quelqu'un qui se centre sur Dieu, puis ça déborde en louanges comme ça. Colossiens 3, avec la parole de Dieu, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Voyez-vous l'importance ici de la louange, parce que la louange, c'est la réponse à un cœur qui est en adoration face à Dieu. On est émerveillé, puis ce qui sort, c'est « wow ». Et lorsqu'on est dans cette position spirituelle devant Dieu, humblement, en adoration, on est prêt pour être dans la position spirituelle devant les hommes qui vont opérer sa délivrance. Dieu va pouvoir nous utiliser dans les relations interpersonnelles pour être capable de donner, de déborder. Et ça m'amène au deuxième point ce matin, le deuxième verbe. Le deuxième verbe, non seulement il a donné, mais regardez évidemment, pardonner. Au verset 17. Vous parlerez ainsi, ça c'est les paroles de Jacob qui sont reportées par ses fils. Vous parlerez ici à Joseph. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Et j'aimerais dire, c'est sorti ce matin en prière par un frère qui priait. Je pense que Joseph était disposé à pardonner là devant ses frères, parce que bien avant, Dieu avait travaillé dans son cœur pour que déjà il pardonne quand il était en prison, quand il était abandonné, parce que c'est là que ça faisait le plus mal. Là, ici, c'était... Il y a beaucoup d'eau qui avait coulé sous les ponts. Il avait pardonné. Si donner, c'est le sens légal, on fait face au problème, la loi nous dit qu'un problème, la grâce. Pardonner, c'est le sens fondamental de Christ, le pardon de notre part. Le sens fondamental. C'est-à-dire que c'est le moyen désigné, le pardon, c'est le moyen désigné par Dieu pour retrouver rien de moins de ce que nous avons perdu en Éden. Le pardon, c'est ça. N'est-ce pas comme ça qu'on a retrouvé la vie qu'on avait perdue lorsqu'on a été pardonné, gracié? N'est-ce pas que c'est par le pardon, c'est par le moyen de l'expiation qui est en Jésus-Christ, lorsqu'on reçoit ça, qu'on est pardonné, gracié de tous nos péchés, qu'on retrouve la vie? Bien, de la même façon, encore là, comme je vous dis, que ça se passe au niveau vertical entre nous et Dieu, lorsqu'on a la réconciliation avec Dieu, c'est aussi de la même façon que dans nos relations interpersonnelles, on va pouvoir retrouver ce qu'on a perdu à la chute. Et vous savez, il y a trois besoins fondamentaux que nous avons en tant qu'humains, que nous avons tous perdus, qui ont été brisés par la chute, mais qui sont retrouvés en Jésus-Christ, et qu'on a avec lui, mais aussi qu'on a les uns avec les autres, lorsque, ensemble, dans nos relations interpersonnelles, on se supporte les uns les autres, si l'un a ce sujet de se plaindre, on se pardonne réciproquement, comme Christ nous a pardonné, on se pardonne aussi. Ces trois besoins fondamentaux sont d'abord la sécurité. Christ restaure cette sécurité que nous avions avant la chute, c'est-à-dire que Dieu nous tenait dans sa main, on était dans une relation où est-ce qu'il n'y avait pas la menace que ça soit séparé. C'était une relation impeccable qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Dieu était avec l'homme en tout temps. Et savez-vous ça, que cette restauration de la sécurité, c'est la solution à ce qui est arrivé aussitôt que le péché est rentré dans le monde. Qu'est-ce qui est arrivé quand le péché est rentré dans le monde? Ils sont allés se cacher. Pourquoi? Il y avait peur. Il y avait aussi honte, on va revenir dans un instant. Mais il a dit, je me suis caché parce que j'avais peur. Et n'est-ce pas qu'en Jésus-Christ, la Bible nous dit que la crainte n'est pas dans l'amour, la peur n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Moi, j'ai souvent compris ce verset-là. OK, là, je vais grandir dans mon amour, je vais être parfait dans mon amour, puis là, j'aurai plus peur. Bonne chance. Ça ne va pas arriver. En tout cas, pas de ce côté-ci de l'éternité. Quand on va être dans sa présence, tout ça, puis qu'on va être dans un corps glorifié, ça va être une autre paire de manches. Mais en ce moment, on est sujet à la faiblesse, on est vacillant dans notre foi, dans notre amour pour le Seigneur. L'amour parfait qui bannit la crainte, c'est pas le nôtre, c'est celui de Christ. Lui, il change jamais, il est parfait. Et c'est ça qui bannit la crainte, et c'est se remettre constamment les yeux sur cet amour. Savez-vous que dans vos pires journées, comme dans vos meilleures, que dans les moments où est-ce que vous avez le plus honte, le plus peur, Dieu vous aime pas moins, si vous êtes un enfant de Dieu? Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je veux dire, l'amour de Dieu, lorsqu'on est en Jésus-Christ, lavé, accepté, et il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ce qu'on est en Jésus-Christ, c'est complètement resté, on est sécure. Plus de peur. L'amour parfait de Christ bannit la crainte, et c'est l'accepter, c'est se l'approprier qui fait en sorte qu'on est de plus en plus libéré de la puissance, de la peur, de la crainte dans nos vies. Pour mettre ça au niveau horizontal, parce que la peur, c'est quelque chose de prédominant, non seulement dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation les uns avec les autres. Pensons à une relation parent-enfant. Tantôt, en priant, on dit, savez-vous que le livre de Genèse, c'est incroyable comment on voit Dieu et le Dieu des familles dysfonctionnelles. Puis je pense qu'il a laissé ça dans Genèse de même pour montrer, regardez, c'était pas des familles idéales, là. Mais moi, je suis un Dieu qui prend des familles de même puis qui fait quelque chose de glorieux avec ça. C'est ça l'histoire de la rédemption. C'est pas que Dieu a donc sauvé des personnes, que tout était beau, puis il pouvait se péter les bretelles. Non, il a pris du monde qui ça faisait pas mal dur. La jalousie, puis là, on l'a vu, hein. S'il l'avait pas retenu, il l'aurait tué, Joseph, puis tout ça. C'est le genre de famille que Dieu a racheté. Mais il y a beaucoup dans les relations parents-enfants, il y a beaucoup de peur et réciproque. Qui ne peuvent être conquéris que par l'appréciation et l'appropriation de l'amour de Dieu, qui est plus grand que les problèmes. Est-ce que vous voyez vos enfants, on a vu ça la semaine passée avec notre frère, est-ce que vous voyez vos enfants juste comme un problème? Vous voyez que l'amour de Dieu est plus grand que Dieu, capable, avec Dieu, il y a quelque chose à faire, qu'il y a de l'espoir. Les parents, est-ce que les enfants, est-ce que vous voyez vos parents juste comme des gens qui vous donnent du trouble? Vous voyez qu'ils vous aiment, puis que l'amour pour eux autres, puis l'amour de Dieu fait que vous êtes dans une situation tellement bénie. Si vous êtes ici, vous êtes dans une famille chrétienne, vous êtes sur la terre dans les plus privilégiés. Parce que vous êtes exposé à la liberté qui est en Jésus-Christ, à la lumière de la parole, de la vérité, dans l'amour, avec des parents totalement imparfaits, là. Mais c'est un privilège grandiose. Dieu a restauré la sécurité qu'on a perdue en Éden. On a aussi en Jésus-Christ cette acceptation qui a été restaurée. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait, c'est ça, on avait une relation intime avec Dieu, on avait toute l'attention de Dieu. Et quand on a péché, on a perdu ça. Dieu les a rejetés, il les a sortis du jardin, n'est-ce pas? C'est la conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation. C'est le sens fondamental du mot mort, c'est séparation. Mais en Jésus-Christ, la solution à ce rejet, on l'a complètement, on est accepté dans le bien-aimé. Complètement, parfaitement. Puis c'est pas par nos œuvres, mais c'est par la grâce, c'est purement par la grâce. Et le rejet s'exprime tellement durement dans nos vies. On pourrait faire le tour ici, tout le monde, sans exception. On est blessé, on a été blessé par le rejet. Enoch, c'est vraiment plus que d'autres, mais tout le monde. Tout le monde! Ça fait partie de ce monde déchu. Et savez-vous quoi? Le rejet, c'est souvent, plus souvent qu'autrement, un refus de pardonner ou ramener l'offense qu'on était supposé d'avoir pardonnée. La ramener au centre de la relation. On dit non, c'est un rejet. On dit tu te qualifies pas, t'es pas correct. Puis on met ça entre les deux personnes. Si Jésus le fait plus pour nous, si vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes pardonné, savez-vous quoi que Dieu ne le fait plus pour nous? Il dit nos péchés, là, c'est pas qu'il s'en rappelle plus, mais il ramène jamais. Il dit je les prends, je les jette au fond de la mer, autant sont éloignés, autant l'Est est éloigné de l'Ouest, vos péchés sont éloignés de moi. Pourquoi nous, on les ramènerait si Dieu ne les ramène pas dans notre relation avec lui? Jésus a restauré la sécurité, il a restauré l'acceptation. Jésus a restauré une vie significative. Vous savez, dans le jardin, il leur avait donné un rôle. Il dit, là, vous allez dominer la terre. Il y avait tous les animaux, il y avait un sens à leur vie. Il dit, j'ai fait cette belle création, puis vous êtes ceux que j'ai mis responsables de cette création. Il y avait une signification à leur vie. Il était pas, oh, ben là, ben, attendez sur un banc, là, puis s'il y a quelque chose à faire, je vous le dirai. Non, non, je veux dire, il y avait quelque chose pour avoir un sens à leur existence ici sur terre. Et ça, mes amis, ça revient à ce que tantôt il a été effleuré. C'est la solution à cette culpabilité, à cette honte avec laquelle nous vivons tous dans ce monde brisé, avec des cœurs brisés. On a honte parce qu'on se dit, ma vie vaut rien, j'ai gâché ma vie. Mais Jésus dit non, je t'accepte, je te prends, je te donne un nouveau nom, je te restaure. Tu n'es plus défini par ce qui te fait honte, tu es défini par ce que moi je t'ai fait de toi. Quelle restauration! On voit ainsi que pardonner, c'est l'élément actif, c'est pour ça que c'est un verbe, qui permet la mise en pratique de l'œuvre de Dieu, de Christ dans notre vie. Puis si on l'accepte au niveau vertical, ça va se transférer, ça va se traduire au niveau horizontal dans nos relations interpersonnelles. Dans le pardon, dans les relations humaines. Pourquoi? Parce que ça va être la continuation de la vie, de celle de Dieu, la vraie, le pardon que nous avons en Jésus-Christ. Ça m'amène au troisième point ce matin. Non seulement il a donné, il a pardonné, mais au verset 21, on a le mot « entretenir ». « Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants, et les consolant en parlant à leur cœur. » Ici, c'est le sens vital. Le sens vital, il y avait le sens légal, le sens fondamental. Ici, le sens vital de Christ, notre Père. Parce que pour les frères de Joseph, d'avoir vécu dans la peur, de ne pas avoir été pardonné, il aurait tout le temps été sur une corde raide, il aurait vécu littéralement dans la mort. Séparation, jamais être certain. N'est-ce pas ce que les gens en dehors de Jésus-Christ qui n'ont pas encore connu son pardon, sa restauration, pour ceux qui ont peur de la mort, parce qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, mais lorsqu'on a trouvé le pardon et qu'on vit dans cette sécurité, cette acceptation, cette vie qui a une signification, là, on commence vraiment à vivre. Là, c'est la vraie vie qui commence.
Amen.
Amen. Et là, j'ai pris le mot « entretenir » parce que, vous savez, Jésus l'a dit, « Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demeurez dans son amour. » L'idée, c'est qu'on a parlé de l'amour parfait qui bannit la crainte, qui chasse la crainte de tout mal. Ben, cet amour est la première manifestation du fruit de l'Esprit. Lorsqu'un enfant de Dieu est sauvé, l'Esprit de Dieu en lui porte du fruit. Et c'est quoi la première facette de ce fruit? C'est l'amour. Et c'est la plus grande bénédiction qu'on puisse connaître, expérimenter, partager dans nos rapports humains. C'est l'amour de Christ qui fait qu'on va entretenir. Ici, là, ils avaient pardonné. Mais ça n'a pas juste, OK, je vous pardonne, mais je ne veux plus vous voir la face. Non, c'était le début d'une nouvelle relation. C'est le début de quelque chose de mieux que ce qu'il y avait avant. Et c'est ça l'idée d'entretenir. Non seulement il y a le pardon, et il faut que ça soit là, ça soit authentique, mais quand c'est authentique, ça porte du fruit à long terme. Il y a cette idée, on demeure là-dedans. Et ça, évidemment, on a ça quand on demeure dans notre relation avec Dieu, dans une bonne relation avec Dieu, mais aussi dans celle avec les autres. Où est-ce qu'on va pouvoir entretenir avec nos proches des relations dont l'atmosphère est sécurisante et valorisante et significative? Parce qu'elle reflète le fruit de ce que Dieu a fait dans nous. C'est pas nous qui en est l'idée, c'est pas nous les génies là-dedans. Hein. C'est Dieu qui l'est. C'est Dieu qui fait ça à travers nous. Et je pense qu'il n'y a rien de plus glorieux à expérimenter ici-bas sur terre. Ce monde est brisé et déchu. Et j'aimerais juste vous dire, Dieu nous donne l'occasion. En 2020-2021, puis on est déjà dans 2022, Dieu a fait un œuvre exactement comme on voit là. Y a-t-il eu du mal? Absolument. OK? Mensonge,
Je pense qu'il y a bien du monde qui sont coupables, que ça n'a pas été révélé et tout ça. Dieu va s'occuper de ça. Tout, Jésus a dit que tout ce qui est dans les ténèbres va être révélé dans la lumière un jour. Mais là où on doit se concentrer, c'est que Dieu a pris ça, là, ce mal-là, là, puis a fait quelque chose de beau puis de bon. Vous êtes ici pour en rendre témoignage.
Amen.
On voit que Dieu fait une œuvre de restauration. Puis ça, c'est juste Dieu qui peut le faire. Quelqu'un m'a dit, t'as vu dans l'église, que vous avez fait pour que ça soit le même? On n'a rien fait, c'est Dieu qui l'a fait. C'est justement ça. That's the point, comme dirait Kevin. C'est Dieu qui l'a fait. Si c'était nous, ça ne marcherait pas à bien des places. Puis d'ailleurs, si vous voyez quelque chose qui ne marche pas ici, mettez la faute sur nous, pas sur Dieu. Mais quand Dieu fait quelque chose, c'est quelque chose de vrai, de beau, de glorieux. Et Dieu nous permet d'expérimenter ça. N'est-ce pas, justement, ce qui a fait, ceux qui ont senti depuis un bout de temps, on a eu toutes sortes de formes, mais quand on a vu, comme ça, cette grâce, cette unité spirituelle, cette croissance, c'est justement lorsque Dieu entretenait, faisait grandir la semence qu'il a semée dès le début de tout ce qu'on vit depuis 2 ans. Et je pense que c'est pas fini. Dieu a pas fini. Celui qui a commencé cette œuvre en nous va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Nous, ce que simplement on a à se soucier, restons centrés sur Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit avec... C'est pas l'idée, ah, moi je suis contre ci, je suis contre ça. On est pour le Seigneur Jésus, on est pour le fait qu'il est le Seigneur de cette Église, c'est lui qu'on veut honorer, c'est lui qu'on veut élever. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on adore. Comprenez-vous? C'est on veut rester centré sur lui. Et c'est un combat. On a 10 000 choses qui nous attirent à gauche, à droite pour nous distraire, pour faire toutes sortes de bisbilles, de zizanie. Mais d'un même cœur, d'une même pensée, restons concentrés sur Christ et sa parole. Et Dieu va continuer de faire cette œuvre de grâce. Ça m'amène à conclure avec le verset 24. Où est-ce que Joseph, sur le bord de mourir, donne les dernières instructions, et on sait que c'est par la foi, parce qu'on apprend dans Hébreux qu'il a donné les instructions pour ses os, parce que c'était rattaché à la terre promise et tout ça. Il a donné ici à ses frères, on voit au verset 24, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il fera remonter. » Il était descendu, mais Dieu allait le faire remonter de ce pays dans lequel il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu vous visitera, puis il va vous faire remonter. Et c'est ce qui est arrivé avec la Pâque. Dieu les a visités. Dieu les a visités, on connaît l'histoire, ben si on continuait là, on verrait qu'avec l'Exode, Dieu a vu la misère de son peuple, il a suscité Moïse, puis bon, toute l'histoire, les 10 plaies, la délivrance. Dieu a visité son peuple et il a fait remonter tel qu'il a promis. Ça s'est accompli tel que Dieu l'avait dit. Alors, je termine avec des questions. Si Dieu a tout accompli ça, si Dieu est fidèle, si Dieu a dit quelque chose ici, on voit, il a transformé mal en bien, puis il a dit c'est pas fini, comme on vient de dire, nous autres. Dieu a transformé mal en bien depuis qu'on voit tout ce qui élève, merveilleux ce qu'il fait, puis il n'a pas fini. Je pense qu'on a des questions à se poser ce matin. Des questions simples, mais pour réfléchir. Pourquoi aurais-je peur si Dieu est souverain puis qu'il est tout-puissant? Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi je me sentirais délaissé si l'Éternel est mon berger et qu'il me dit dans Ésaïe 54, verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ou encore, pourquoi me sentir pourri, sans valeur, si Dieu est mon rédempteur qui m'a donné un nom nouveau, qui m'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi il me conserve sa bonté. L'Éternel qui est au milieu de nous comme un héros qui sauve, qui fait de nous sa plus grande joie, qui garde le silence dans son amour, qui a pour nous des chants, des transports d'allégresse. Pourquoi je me sentirais comme rien puis sans valeur quand Dieu révèle que c'est ça sa disposition envers nous qui sommes en Jésus-Christ? Ah, une autre question. Pourquoi, si tu es ici et que tu es mort dans tes offenses et tes péchés,
Pourquoi est-ce que tu resterais dans cet état lorsque Dieu nous dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle? Pourquoi rester dans la mort lorsque la vie t'est offerte comme ça en Jésus-Christ? Pourquoi essayer de te sauver toi-même lorsque la Bible nous dit que toute notre justice, tout ce qu'on voudrait faire, c'est comme un vêtement souillé? C'est bon à rien. Lorsqu'elle se dit que nos œuvres, elles peuvent pas nous sauver. Que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Puis si tu vois ça, pourquoi remettre à plus tard ton salut, le fait d'être réconcilié avec Dieu, lorsque la Bible nous dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. » Voici maintenant le jour du salut. Ou une autre référence, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez la voix de Dieu qui vous appelle à Christ pour être sauvé, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme au jour de la révolte, vous vous révoltez contre l'amour de Dieu si vous résistez. L'appel est lancé. Croyez en Christ. Recevez le pardon qui est en Jésus-Christ. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez déjà pris le sang de l'agneau, vous l'avez mis sur les linteaux de votre porte, et que l'ange de l'Éternel qui détruisait est passé au-dessus de votre vie, que vous êtes maintenant en Jésus-Christ, que vous avez Jésus qui est votre Père, pourquoi vous essayeriez plus fort d'avoir la victoire sur vos problèmes que vous avez puis les situations que vous vivez lorsque Dieu vous dit, me dit, « Ma grâce te suffit. » Pourquoi vivre dans l'amertume en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'on a connu celui qui nous a pardonné? Si on a connu le pardon, pourquoi nous on n'extensionnerait pas le pardon? Une dernière question, puis je finis avec ça. Pourquoi pas venir à celui, pour tout le monde ici, pourquoi pas venir à celui qui dit « Venez à moi ». Vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Vous n'êtes pas fatigués? C'est fatigant la vie, n'est-ce pas? Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Merci Seigneur que tu te révèles à nous tel que tu es. Seigneur, nous, on s'imagine toutes sortes de choses. Souvent, on est en détresse parce qu'on se croit. On se compte des menteries, puis on se croit. Mais Seigneur, toi, tu te révèles à nous tel que tu es. Dans ta parole, et toi, Saint-Esprit, tu t'assures qu'on est vraiment convaincu qu'on ne va pas mettre ça de côté, Seigneur. Ah, pour les gens ici qui ne sont pas encore passés de la mort à la vie. Qu'il est toi qui travailles dans leur cœur, Seigneur. Amène-les à céder leur vie à Christ. Seigneur, continue ce travail pour les attirer à la croix. Et qu'aujourd'hui, on ait cette joie de les voir naître de nouveau, par l'Esprit de Dieu, naître d'en haut. Ah, et nous, ton peuple est ici réuni ce matin. On a vu des vérités merveilleuses sur Christ, le pardon de notre Pâque. Ah, que ça ne soit pas juste des choses qui sont rentrées par une oreille, puis qui sortent par l'autre. Que ce ne soit pas juste des choses qu'on voit pour être assis chez nous, peut-être ça, mais que ces choses-là saisissent nos cœurs, que ça transforme notre relation avec toi et celle avec les autres. Pour ta gloire, Seigneur, pour que Christ soit formé dans nos cœurs et manifesté au milieu de nous et dans chacune de nos vies. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen.